De Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Bon mardi tout le monde, salut Simon.
Salut TP.
Cette semaine à l'émission, on parle de collectivisation de la terre, de pratiques paysannes et de souveraineté alimentaire avec Gabriel Leblanc de la Ferme de la Dérive. Vous écoutez À nous la terre. Chaque année, des superficies innombrables de terres fertiles sont détruites au nom du développement immobilier. Cette dynamique est bien sûr pas étrangère à la multiplication des bouleversements écologiques tels que les sécheresses, les canicules ou encore le déséquilibre des cycles de gel qui fragilisent les conditions qui permettraient normalement au sol de nous nourrir. De même, il est de plus en plus difficile pour des communautés locales d'accéder à la terre afin d'y établir des pratiques nourricières ou pour d'autres de maintenir une autonomie liée à des relations territoriales ancestrales. L'agro-industrie, grâce à ses modèles étatiques qui jouent en faveur d'une production de masse, des échanges internationaux et du profit, écrase les possibilités d'une paysannerie respectueuse des sols, de la biodiversité, des territoires et des communautés qui les habitent. Dans un contexte où le modèle dominant du Québec est celui de l'agro-business monoculturel, que nous produisons environ 30% de nos aliments et que nous sommes par le fait même vulnérables aux chaînes d'approvisionnement dirigées par des multinationales, comment s'attaquer à l'industrie agroalimentaire? Comment mettre en place des pratiques paysannes inscrites dans des rapports de réciprocité au territoire et aux communautés qui les habitent? Et surtout, comment favoriser une autonomie territoriale et une souveraineté alimentaire pour les communautés locales? Ce sont quelques questions que nous aborderons aujourd'hui avec Gabriel Leblanc, un des cofondateurs de la Ferme de la Dérive au Bic dans le Bas-Saint-Laurent.
Gabriel, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gab, est-ce que t'es là? Es-tu avec nous? Gabriel, en tout cas, on va y revenir, mais après avoir complété une maîtrise en sciences de l'environnement où tu as pu travailler avec des producteurs de soya en Amazonie brésilienne, tu as décidé avec quelques personnes de commencer à vivre vous-même de la terre et d'en nourrir d'autres. C'était le but de la Ferme de la Dérive. Depuis 5 ans, tu cultives une parcelle de terre sur la fiducie foncière de la Sage-Terre qui se trouve au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent. Tu t'impliques comme administrateur au sein de l'Union paysanne et tu contribues régulièrement au journal indépendant Le Mouton Noir. À la Ferme de la Dérive et dans tes autres implications, vous essayez de développer des perspectives et des pratiques qui pourraient nous faire changer de paradigme en ce qui concerne l'agriculture et de vous aligner sur la notion de souveraineté alimentaire. Merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec nous.
Yes.
Tu nous entends, Gab?
Oui, absolument. Vous m'entendez?
On t'entend très bien. Pour commencer, disons, cette émission, au début de la pandémie, la question agricole est revenue avec une intensité inhabituelle dans l'espace public. On s'est beaucoup inquiété collectivement de notre dépendance envers des chaînes d'approvisionnement internationales, finalement assez fragiles, et on s'est dit qu'il fallait davantage manger les produits locaux. Qu'est-ce que l'agriculture est en train de devenir au Québec? Est-ce qu'il y a eu une réorientation du paradigme ou bien est-ce que l'inquiétude a provoqué une accélération et une intensification des logiques déjà dominantes?
Ben, écoute, c'est une question qui est somme toute complexe, là, mais j'ai certainement des éléments de réponse à apporter à ça. Là. Tu sais, tout d'abord, nous, avec la ferme, c'est sûr que depuis 2 ans, on a vu... un accroissement là, de la demande des produits locaux, là, disons. Donc, tu sais, nos kiosques, par exemple, y a plus de gens qui les fréquentent. Là, on peut faire cette observation-là. C'est très clair. Cette année, lorsqu'on a annoncé nos paniers, par exemple, on les a annoncés en début février, puis 2-3 jours après, ben, on était sold out. Là. Donc, tu sais, on sent un certain engouement chez la population. Je peux pas dire que c'est quelque chose de nécessairement généralisé, tu sais, parce que quand je parle de plus de personnes, oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas 26 000 personnes qui viennent au kiosque. On parle d'une augmentation de 50 personnes, peut-être, là, tu sais, qui viennent nous voir dorénavant. Tu sais, donc, on sent qu'il y a un certain engouement, tu sais, chez les gens. Là où mes inquiétudes sont plus présentes, c'est que cette volonté-là populaire qu'on sent, ça ne rime pas nécessairement avec les intérêts qui sont promus par nos autorités dirigeantes. Donc, c'est-à-dire que, oui, de plus en plus, par exemple, le ministre André Lamontagne, là, qui est le ministre du MAPAC, tient dans sa rhétorique la notion d'autonomie alimentaire. Donc, lorsqu'il annonce des nouveaux programmes là, de subventions, puis ça, il va dire que tout ça s'exécute dans une perspective d'autonomie alimentaire. Rapidement, lorsqu'on entend autonomie alimentaire, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une autonomie, donc de produire des légumes ici pour les gens d'ici. Dans les faits, lorsqu'on regarde un peu plus en profondeur là, les différents programmes qui sont disponibles, mais on se rend compte que c'est surtout, voire strictement juste, du financement à l'entreprise dans des perspectives productivistes. Donc, les programmes du MAPAC actuellement, oui, sont un peu consciencieux d'augmenter la production, mais on ne sent pas la volonté d'arrimer cette production-là avec la consommation locale. Ça peut se traduire aussi par certaines paroles de ce ministre-là, où, par exemple, lorsqu'il faisait l'annonce de sa stratégie sur la croissance des serres du Québec, à la toute fin, dans son point de presse, il y a un journaliste qui a posé la question, qui a dit « Mais là, vous avez parlé du développement des serres, mais est-ce qu'il y a une clause dans le financement qui demande à ce que les productions financées distribuent localement? » Ben, le ministre a répondu « Ben non, en fait, parce qu'on croit que... pour consolider une entreprise, il faut d'abord... » Là, je paraphrase, là, mais c'est sensiblement ça. Il dit « Je crois que une entreprise qui est capable d'inscrire ses perspectives sur le marché de l'exportation viendra qu'à consolider son entreprise et seulement ensuite, il va avoir les reins assez solides pour s'attaquer aux marchés locaux. » Donc, tu sais, ça, c'est une réponse qu'il a proposée qui traduit, à mon sens, quand même une volonté gouvernementale qui nous tient liés au paradigme dominant qui est celui de la du commerce international, de l'exportation des denrées agricoles. Puis, dans les faits, les statistiques corroborent aussi ces paroles-là, c'est-à-dire que de toutes les parts qui sont élevées au Québec, c'est 70 % d'entre eux qui sont destinés au marché de l'exportation. Et puis, pourtant, c'est un secteur qui est financé à la hauteur de plusieurs milliards. Donc, on nous dit, ouais, autonomie alimentaire, mais dans les faits, la plupart de nos produits sont strictement exportés, puis c'est la vocation qui est encouragée là, par les politiques de financement à la productivité fermière.
Mm-hmm. Et finalement, si on parle d'autonomie ou si on veut parler sérieusement d'autonomie, il faudrait parler d'un certain bris avec notre dépendance à ces chaînes d'industrie-là mondialisées.
Exactement, oui. Puis ça, c'est pas clair que c'est leur visée, en fait, parce que lorsque... par exemple, juste pour vous donner une statistique, en 1950, au Québec, il y avait 130 000 fermes. Aujourd'hui, ce sont en fait 30 000 fermes qui existent. Donc, il y a eu une disparition là, d'environ 100 000 fermes là, en 50 ans sur le territoire québécois. Puis lorsque je me suis entretenu avec le ministre là, de par mes fonctions à l'Union paysanne, ça ne semblait pas nécessairement être un problème pour lui parce que lui, ce qu'il notait, c'est qu'il y avait une augmentation de la productivité globale. Ceci dit, on a parlé un peu de la pandémie puis de la fragilité là, que ça l'a présenté, la fragilité qui est liée au système d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on peut assurer un approvisionnement constant? Bien, en fait, c'est certainement pas en misant sur un nombre toujours restreint ou toujours en diminution d'entreprises. Si on voulait être certain de toujours pouvoir s'approvisionner d'aliments locaux, bien, il faudrait avoir plus de fermes et non pas moins, parce que si parmi ce moins de fermes-là, il y en a davantage qui ferment, bien, on va dans le sens contraire d'un approvisionnement soutenu, tu sais.
C'est intéressant que tu dises qu'il y a 100 000 fermes de moins quand même au Québec maintenant qu'il n'y a pas si longtemps. C'est quoi le portrait dans l'avenir proche par rapport à ces fermes-là? Je sais qu'on parle souvent de la croissance des fermes puis de la perte des terres agricoles pour des développements immobiliers. Est-ce que c'est encore ça les orientations qui sont... celle du MAPAC?
Ben oui, ben en fait, ce qu'on observe, là, si on porte un regard un peu historique là, sur la chose, il y a effectivement une diminution du nombre de fermes, mais il y a quand même une augmentation de ces fermes-là en termes de taille. Puis aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une spécialisation des productions. À l'époque, lorsqu'il y avait 130 000 fermes, une très forte majorité d'entre elles étaient destinées à des fins d'autosuffisance, puis à de la distribution locale. Ça avait été considéré alors un peu nuisible par les gouvernements qui étaient en place parce que c'était pas payant pour le Québec. Ça contribuait pas nécessairement au PIB puis toutes ces affaires-là là, qui servent d'indicateurs de succès ou je sais pas quoi. Actuellement, je veux dire, il y a rien qui nous indique qu'on va sortir de la spécialisation fermière parce que même les programmes de subvention, ben, ça va être attitré à des secteurs spécifique de la production agricole. On va avoir du financement pour la production porcine, on va avoir du financement pour le grain, on va avoir du financement pour tel autre volet de l'agriculture, mais jamais le financement, par exemple, va favoriser une diversification des fermes. Donc, tu sais, il y a vraiment une tendance vers une spécialisation, puis qui dit spécialisation, parle aussi de démarche de compétitivité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on veut spécialiser? C'est pour accéder à des économies d'échelle. Les économies d'échelle, elles, permettent de réduire les coûts unitaires de la production à l'hectare, par exemple. Puis c'est vraiment vers ça qu'on se dirige. Puis lorsqu'on se dirige vers ça, forcément, il y a des fermes qui seront moins compétitives, donc qui vont continuer de disparaître puis de se faire relayer par des plus grosses fermes. Donc, tu sais, si on veut regarder la tendance, si on s'en tient aux faits historiques, là, on peut anticiper qu'il y aura moins de fermes plus tard.
C'est même une contrainte du point de vue de l'accès au financement, en fait, la volonté de croître, si je ne me trompe pas, pour les gens qui veulent se partir, prendre des prêts pour racheter des fermes, par exemple. Il faut qu'ils aient dans leur projet de produire de plus en plus, voire d'augmenter la superficie.
Ouais. Ben, tu sais, pour avoir produit des, comment qu'on appelle ça, des plans d'affaires, là, pour avoir accès à du financement du MAPAC, c'est ça, il faut que tu prouves ta profitabilité. Dans le fond, ils veulent rien savoir de ton intention de nourrir des gens. T'sais. Ce qu'ils veulent savoir, c'est vraiment, mais tu vas-tu être rentable? Puis, et non seulement ça, tu vas-tu faire du profit? Puis seulement lorsque tu fais du profit, il sera intéressant alors de te transmettre un financement. Donc, tu sais, c'est pas le temps de parler de genre, je veux nourrir la population, parce que c'est pas ça le but. C'est comme, dans ton plan d'affaires, il faut que tu dises, je veux faire du cash. Donc, on demeure aussi dans cette logique-là de marchandisation des aliments, de s'enrichir, de croître, de devenir plus gros, potentiellement d'avaler son voisin, etc. Donc, ça, c'est des choses qui marchent bien pour des créanciers. Là.
Tout à fait. Pourrais-tu nous parler un peu du rôle de l'Union des producteurs agricoles, donc l'UPA, dans la mise en place de ces dynamiques-là là, dont tu parles, donc la spécialisation puis la marchandisation finalement des sols et des produits?
Ben oui, je peux en parler un petit peu, là. C'est sûr que, à mon sens, l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles, à ne pas confondre avec l'Union paysanne, là, je tiens juste à le spécifier, ce sont deux organisations différentes. L'UPA est pour moi un rouage important là, dans l'industrialisation de l'agriculture. En fait, c'est une organisation qui est extrêmement conservatrice, qui a été initialement fondée en 1924, ça s'appelait l'Union des cultivateurs catholiques, en fait, l'UCC, a changé de nom en 1971 pour l'UPA. C'est une institution vieille du siècle dernier qui semble avoir quand même conservé là, dans ses valeurs, là, ben, je veux dire, des idées anciennes. Là, donc, c'est beaucoup sur comment je peux faire pour enrichir mes producteurs, va beaucoup se mettre à la défense des gros producteurs, va développer des programmes d'assurance collective, mais qui visent à justement là, produire plus, des compensations financières lorsqu'il y a des pertes de rendement au niveau de la production du maïs, etc., etc. Donc, tu sais, leur réflexion s'oriente beaucoup dans cette idée-là que la spécialisation des fermes, c'est bien, puis elle va lutter corps et âme pour assurer là, le maintien de ce paradigme-là,
tu sais. Tu parlais tantôt des projets de méga-serres financés de manière très importante par le gouvernement du Québec. Elles ont beaucoup fait la manchette dans les derniers temps. C'est ce genre de projet de production massive qui est proposé par le gouvernement pour régler peut-être les problèmes d'approvisionnement local des aliments. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est pas pour vous, c'est pas nécessairement la perspective vers laquelle il faut aller. En fait, c'est nécessairement pas cette perspective-là vers laquelle il faut aller. Parce que c'est quand même un projet de bétonisation du sol, en fait.
Concrètement, c'est ça. Là. En fait, tu sais, je pense notamment, je pourrais nommer plusieurs grosses serres, plusieurs projets de grosses serres. Peut-être que je m'en tiendrai pour l'instant aux serres Toundra, là, qui sont situées à Saint-Félicien, là, au Saguenay, là, ou lac Saint-Jean, en tout cas. Les serres Toundra, essentiellement, ont pour objectif de produire 80 % de tout le concombre qui sera distribué sur le territoire du soi-disant Québec. Puis, ben en fait, ça séduit énormément les gouvernements. Là. S'ils ont accès à des millions en financement, c'est parce qu'ils ont cette vocation-là de dominer complètement un marché, le marché du concombre. Puis pour ce faire, pour arriver à produire 80 % du concombre au Québec, ils sont en train de bétonner là, 15 hectares de terres fertiles pour faire de la monoculture de concombre en pot. Donc, c'est ça leur objectif. Puis c'est drôle à voir quand tu vas sur Google Images, t'écris Serre Toundra, ben, tu tombes tout le temps sur des genres de monsieur en cravate. Puis pourquoi je le mentionne, c'est parce que ce modèle agricole-là nous écarte terriblement de cette image-là un peu bucolique qu'on se fait de l'agriculteur avec son chapeau de paille puis tout. Là. C'est plus ça l'agriculture. C'est rendu des businessmen. Puis tu sais, je dis businessmen parce que je vois juste des messieurs sur les photos qui ont à cœur ben, les profits que ça peut générer puis qui développent des modèles d'affaires qui vont dans le sens de faire du cash, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tout un discours écologique qui est développé autour de ces nouvelles pratiques-là. Puis est-ce que finalement, même au sein, mettons, des institutions d'enseignement, est-ce que ces pratiques-là sont comme valorisées, en fait? Est-ce que c'est vers ça, c'est ça qu'on nous promet comme perspective d'avenir de manière générale? Ou tu sens quand même qu'il y a comme un mouvement de résistance par rapport à ces projets-là?
Je connais plus ou moins le cursus là, académique, par exemple, le bac en agronomie de l'Université Laval. Là. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que les cours sur la production biologique, en fait, sont très peu nombreux. Là. Il y a comme 4 cours là, qui se donnent dans le programme sur l'entièreté du bac. Et puis, c'est des cours optionnels. Donc, tu sais, on sent quand même une espèce d'arrimage entre le système d'éducation puis les vocations de l'industrie. Là. Ça, c'est clair. Puis même moi, j'ai participé dernièrement à ce qu'on appelle une commission parlementaire. Puis l'enjeu, c'était la fusion des ITAQ, là, les Instituts de technologie agricole du Québec. Ils voulaient les regrouper sur une même bannière, puis élargir le CA, puis éventuellement laisser davantage de place à l'entreprise privée pour occuper les sièges stratégiques de ces institutions académiques-là. Ben justement pour répondre aux besoins de l'industrie. T'sais. Puis lorsque je décriais cette situation-là en commission parlementaire, ben on me trouvait un peu fou. T'sais. En fait, on m'a posé la question directement. C'est dans le fond, si je comprends bien, tu es contre le fait que des entreprises privées occupent des postes stratégiques dans les institutions publiques. Là, j'ai dit ben oui. Puis on m'a répondu, c'est ça qu'on pensait. C'était moi le bizarre. Là.
Au moins, vous étiez d'accord là-dessus. C'était pas amical, mais au moins c'était compréhension mutuelle là, des positions.
Oui, c'est ça. C'était la ministre Saint-Pierre là, qui m'a. Pas, non, c'était la députée Saint-Pierre, le libéral, là, qui m'a posé cette question-là. Je l'ai trouvé drôle.
Mais bon, quand même, il y a beaucoup de gens qui voient un peu dans le modèle de l'agriculture conventionnelle quelque chose d'un peu effrayant, là, où justement on a rompu ce lien-là qui est comme en fait. Un rapport bucolique à la terre, comme tu dis, ou un rapport d'appartenance à la terre. Puis, un des contre-modèles qui est proposé beaucoup, puis dont on entend parler assez souvent, c'est le modèle du maraîchage intensif à la Jean-Martin Fortier. Pour toi, c'est quoi ce contre-modèle-là, en fait, qui est opposé à l'agriculture conventionnelle?
Écoute, c'est un modèle intéressant. À la ferme de la Dérive, on a des pratiques qui sont littéralement calquées là, du modèle à Jean-Martin Fortier. Je commencerais peut-être d'abord par nommer un bon coup. C'est-à-dire que, tu sais, v'là 15 ans, lorsque quelqu'un avait pour ambition de fonder une ferme maraîchère, là, tu sais, avec une production à petite échelle, donc tu sais, se réalisant sur un hectare, si tu étais à la recherche d'un financement, qui soit gouvernemental ou privé, par exemple par les banques, tu faisais vraiment rire de toi. C'était non solvable. C'était difficile de prouver que ce modèle-là pouvait être rentable. Ce que Jean-Martin Fortier a fait, c'est qu'il l'a mis en place puis il a prouvé la rentabilité de la chose. Donc aujourd'hui, il y a une certaine place chez les créanciers à financer ça. Bon, on demeure dans la logique du financement puis ça, puis bon, il y aurait plein de critiques à émettre là-dessus, là. Mais tu sais, il a quand même créé ça. Après, là où je trouve ça peut-être un peu dangereux, c'est que Ce modèle de la petite agriculture-là à échelle humaine est doré d'une façon où on n'arrive plus à pointer ses mauvais coups. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler là, des bienfaits sur l'environnement, sur la consommation locale. Ah, c'est donc bien beau, on va manger les produits qu'on fait pousser ici, etc., etc. Mais dans les faits, c'est plus complexe que ça, l'agriculture. T'sais, c'est pas juste on produit des légumes puis on les vend localement, en fait. Il faut aussi se poser des questions sur la provenance de nos intrants, par exemple. Puis actuellement, ce qui est en vogue dans le maraîchage conventionnel, disons, c'est les cultures bio-intensives. Si je peux résumer rapidement, c'est quoi? Là, c'est essentiellement avoir des rotations rapides sur une même parcelle de manière à effectuer plusieurs récoltes, puis donc, on peut dire, rentabiliser davantage une parcelle de terre.
C'est ça, en fait. Puis ce qui est intéressant, peut-être ce qui est questionnable, c'est que ce modèle-là a peut-être du succès parce que, justement, il s'inscrit dans cette logique-là de rentabilisation des sols.
Oui, il y a ça, effectivement. Lorsque, par exemple, il y a un livre qui est probablement possédé par toutes les personnes qui font de la production maraîchère, c'est « Le jardinier maraîcher » de Jean-Martin Fortier. Ben, ce qui teinte ce livre-là tout au long de toutes les pages, c'est la recette de comment faire du cash avec du maraîchage. C'est pas la recette de comment nourrir sa population, tu sais. Je veux dire, c'est pas ça qui est traduit à travers le livre. Les pratiques sont bonnes en tant que telles, puis on peut les réutiliser pour nourrir des gens, oui. Mais somme toute, tu sais, le discours économique fortement capitaliste demeure inscrit là, dans le cœur, tu sais, du livre.
Donc, tu disais que cette logique-là était, bon, celle de l'épuisement, en fait, du sol à terme, si on comprend bien. S'il n'y avait pas des intrants externes ou des intrants minéraux qui sont issus des chaînes d'approvisionnement mondiales, la culture bio-intensive mènerait à l'épuisement des sols, en fait.
Oui, exact, c'est ça. Ben, tu sais, bien sûr, il y a une forme de conscience du fait qu'on doit prendre soin des sols, mais les intrants qu'on met dedans, c'est pas vrai qu'ils viennent de ta ferme ou qu'ils viennent du Québec nécessairement. Tu sais, tout ce qui est engrais phosphaté, ça vient de mines qui se trouvent en Israël, tu sais, par exemple. Donc, on nous vante un peu les mérites de l'alimentation locale, mais ce qui a permis aux légumes lui-même de pousser, ben, c'est des intrants qui peuvent provenir de n'importe où sur la planète. Donc, tu sais, oui, il y a un volet qui est écologique, c'est-à-dire que la distribution s'effectue localement, mais la production, elle, n'est pas tout à fait locale. Puis aussi, en fait, on demeure encore un peu dans cette logique-là de spécialisation de l'agriculture. C'est-à-dire que une ferme maraîchère, ça demeure une ferme spécialisée dans la production légumière. Lorsqu'on parle de ferme maraîchère, on ne parle pas de ferme nécessairement diversifiée avec différents volets. On ne parle pas d'intégration de, par exemple, poules en pâturage qui pourraient aller dans les champs pour les fertiliser. Donc, on ne parle pas du cycle des nutriments à l'intérieur même d'une ferme. Là. Donc, tu sais, les cycles des nutriments demeurent rompus, puis circulent à travers la planète, ce qui crée plein de choses néfastes pour l'environnement, notamment l'eutrophisation des rivières, la désertification. Tu sais, on peut nommer plein de conséquences des modèles spécialisés. Là.
Et donc, il y a encore tout un cheminement ou une déconstruction à faire au niveau à la fois des pratiques, des discours, effectivement, souhaité à travers ces pratiques-là. Puis peut-être qu'on pourrait penser à des cas comme celui, puis là peut-être que je me trompe, mais de Marie Thévard où elle suggère un non-travail du sol, par exemple.
Ben oui, déjà, ça c'est super, le non-travail du sol. Puis c'est drôle parce que beaucoup de producteurs, productrices en maraîchage vont parler des pratiques no-till, qui est pas de labour, donc pas de travail du sol. Mais dans les faits, ils vont utiliser des outils. Tu sais. Il y a quelque chose des outils qui peuvent aller parfois assez en profondeur dans le sol. Donc, il y a comme quelque chose un peu d'hypocrite, à mon sens. C'est-à-dire que, tu sais, on va beaucoup vanter le mérite de nos pratiques, puis on va occulter le fait qu'il existe certaines améliorations qui peuvent encore être apportées. Puis lorsqu'on veut oser parler des améliorations qui pourraient être faites, on se fait nécessairement targuer de chialeux, puis ce genre de choses-là. Donc, pour moi, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait admettre les limites du modèle pour pouvoir collectivement veiller à ce qu'il s'améliore pour vrai. je trouve ça dangereux de dire « Ah, c'est le meilleur modèle du monde, blablabla, diffuser ça at large publiquement, laisser croire aux gens que ah, ben, dans le fond, on a une solution devant nous, alors que la solution n'est pas du tout consolidée. » Si on s'en va dans ce voie-là, on va juste retarder l'effondrement, on ne va pas l'empêcher, en tout cas pas actuellement comme le modèle est. Puis moi, c'est ça qui me fait peur lorsque j'entends des gens monopoliser les ondes publiques pour dire « mon modèle est meilleur que tout ». C'est complètement faux. Ton modèle, il est moyen, il est meilleur que le précédent, mais il y a encore des grosses pistes d'amélioration, puis on peut-tu en parler de tout ça pour qu'on puisse bien faire les choses pour vrai, tu sais.
Il repose aussi sur des formes de travail qui sont non rémunérées, comme tu nous le disais précédemment, ben avant l'émission, en fait. Ouais. Le modèle du woofing est partie intégrante, puis pas très visible, en fait, de la ouais. capacité du bio-intensif à fonctionner de manière rentable.
Oui, effectivement, mais ça, c'est quelque chose, c'est des réflexions qu'on a ici à la ferme là, sur le travail non rémunéré, a.k.a. le woofing. C'est-à-dire que, tu sais, l'agriculture, le maraîchage, là, plus précisément, est un des seuls secteurs où il est comme normal d'embaucher les gens sans les payer. Puis ce qu'on dit, c'est que ben on les paye en connaissance ou en tout cas, on leur donne l'expérience qui leur permettra ensuite de créer leur propre ferme puis donc de créer leurs conditions d'existence matérielles, tu sais, etc. Donc, ça, c'est dit, mais sauf... C'est ça, ce qui arrive, tu sais, par exemple, lorsque je regarde la ferme des 4 temps qui font des annonces de stagiaires, ils demandent des gens qui viendront travailler un mois à 45 heures par semaine sans compensation financière. Puis lorsqu'on sait que la ferme des 4 temps est possédée par Desmarais, qui est un milliardaire, moi, je trouve ça absolument aberrant qu'un milliardaire profite de cette logique-là où il est accepté que des gens peuvent ne pas être payés pour travailler, alors qu'il y aurait les moyens de leur donner une rémunération, par exemple. Mais tout ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de cette forme d'exploitation-là. C'est une exploitation avec un sourire d'en face, ça fait que ça passe bien, tu sais.
C'est clair. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant que tu dises qu'effectivement, il y a des limites au modèle, puis qu'il faut effectivement reconnaître ces limites-là puis pour pouvoir peut-être les dépasser, puis collectivement emprunter d'autres voies. Puis on aura l'occasion, tout de suite après la pause, de parler de ce que vous expérimentez, vous, du côté de la ferme de la dérive au BIC. Donc, merci Gabriel, puis on prend une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
Ouais.
Très bienvenue à Nous la Terre. On entendait la chanson « Rire la bouche » qui figure sur l'album « Archive » de Cédric Lavoie qui est nominé comme réalisateur de l'année au Canadian Folk Music Awards. Il reprend des extraits audio enregistrés dans les années 50, même 40, jusqu'aux années 70. Puis il a recomposé la musique pour aller avec. On trouvait que c'était... un peu imagé de peut-être la question de la paysannerie qui est à recomposer en fait au présent. Donc sur la ferme de la dérive qui se trouve au BIC, vous, c'est un peu à partir de cette idée-là que vous vous orientez, que vous expérimentez un modèle qui vise à sortir des réseaux de distribution conventionnels et à rapprocher l'agriculture de la communauté. Je sais pas si tu peux nous parler un peu de vos expériences puis de la forme de relation que ce modèle-là entretient avec la terre.
Il y aurait plusieurs choses à dire. Ben, tu sais, tout d'abord, en fait, à la dérive, ce qui nous caractérise de façon un peu particulière, c'est que nous sommes enregistrés comme OBNL, c'est-à-dire qu'on est à but non lucratif. Ça part quand même d'une posture idéologique, là, celle où on rejette strictement toute forme de notion de profit, à ne pas confondre avec la rentabilité. On veut quand même arriver à pouvoir payer nos loyers, mettons, là. Donc déjà à la base, tu sais, c'est ça. Nos activités se déroulent dans un contexte où on ne fait pas ça pour croître, pour se diriger vers une forme de développement technologique et tout ça, mais bien pour nourrir des individus. D'ailleurs, c'est notre mesure de succès, ce n'est pas le cash qu'on fait, c'est combien de gens sont venus fréquenter le kiosque, combien de gens ont comme accès à nos paniers, etc. Puis de par notre statut d'OBNL, on a une mission sociale. Et puis, notre mission sociale, c'est de permettre l'accès économique et physique à une alimentation écologique, locale, pour les personnes qui se trouvent en situation de précarité socio-économique. Donc ça, en fait, ça nous amène à développer un volet de distribution communautaire. En fait, c'est qu'on part du principe que l'alimentation bio, locale, c'est full cool, sauf que c'est cher et c'est pas accessible à tout le monde. Actuellement, on nous dit, si tu veux faire ta part pour contrer les changements climatiques, il faut que tu manges local. En fait, ce qu'on dit, c'est les riches mangeront local, puis les autres, ils pourront pas faire leur part pour les changements climatiques. On trouve la situation un peu terrible. Là. Bref, on n'est pas trop pour le discours du manger local. Ceci dit, c'est ça, on développe un volet de distribution communautaire. Donc, on crée des partenariats avec différents organismes là, qui se situent à Rimouski. Puis, on les alimente. Dans le fond, on leur donne de la nourriture. En fait, ces organismes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en contact avec des personnes précarisées, puis ils servent éventuellement comme transmission de la nourriture aux personnes qui en ont véritablement besoin. On part aussi de l'idée que c'est pas suffisant de genre se servir des gaspillages alimentaires produits par l'agro-industrie pour les rediriger vers les personnes précarisées. T'sais. Nous, on pense que ces personnes-là ont le droit d'avoir une nourriture qui a été produite ici pour eux. Donc, tu sais, de produire pour les individus. Mm-hmm. C'est une chose, puis après, il y a différentes logiques là, qu'on applique. Là, on essaie de se démécaniser le plus que possible. Donc, on rejette l'utilisation de carburant le plus que possible. On essaie de faire le plus que possible attention à nos sols. On développe, justement, on a des animaux qui nous permettent d'avoir du fumier. Donc, on le composte. Donc, nos intrants proviennent de la ferme. Donc, c'est de cette façon-là qu'on prend soin de nos sols. Donc, avec notre propre compost, on n'achète pas des cochonneries qui viennent d'Israël, mettons. Donc, tu sais, c'est des façons, là, donc, en fait, qui, on pense, nous permettent de s'inscrire dans un contre-courant un peu, là.
Puis Sacheteur est situé sur une fiducie foncière. Mais en fait, la ferme de la Dérive est située à Sacheteur, qui est une fiducie foncière. En quoi ce modèle-là s'oppose à celui de la propriété privée ou de celui qui est promu par l'agro-industrie présentement?
Ouais, ça, c'est touché dans le fond. Sacheteur, c'est l'endroit où on est situé, qui est une FUSA, donc fiducie d'utilité sociale agricole. Ce qui a pour avantage, en fait, de dépropriétariser la terre. Actuellement, la terre sur laquelle on cultive n'appartient pas à un individu, mais appartient plutôt à une mission qui est administrée par des fiduciaires. Donc, lorsque la terre ici a été donnée à la FUSA, ça venait avec certaines obligations, notamment le fait que la terre, pour toujours, devait servir à des fins agricoles qui ont un impact direct sur la communauté qui habite dans les environs. Donc, c'est pas juste de créer une FUSA agricole puis que finalement, on transforme ça en gros centre d'élevage porcin. Tu sais, ça, c'est pas possible selon les règles qui ont été décidées. mais après, comment est-ce que ça nous écarte de la propriété privée? Bon, tu sais, déjà, on s'est dépropriétarisé, donc c'est plus en soi une propriété privée, mais il faut quand même savoir qu'elle était privée avant d'être dépropriétarisée. Tu sais, on sort pas de la grande logique des propriétés privées dans le sens où il faut les acquérir d'abord pour ensuite les dépropriétariser. T'sais. On n'est pas en train de, je sais pas, s'approprier des terres, de repousser des capitalistes qui sont en train de détruire notre environnement. Il a fallu que quelqu'un, en quelque part, ait de l'argent, qui achète une terre, puis qui ait un assez bon cœur pour la donner. T'sais.
C'est ça, puis ça pose encore la question de l'accès à la terre pour des populations qui n'ont pas du tout les moyens d'y avoir accès. Puis comme tu parlais tout à l'heure, qu'il y a comme les terres tombent entre les mains d'un plus petit nombre de joueurs de plus en plus, donc ça devient de moins en moins accessible pour des gens qui aimeraient, par exemple, partir un projet comme le vôtre. Et donc, vois-tu, à partir de la fiducie, une possibilité de reproduire ou de l'ouvrir à d'autres, de faire... je sais pas moi, d'agrandir le territoire de la fiducie pour la rendre plus largement accessible. Est-ce que ça devient un moyen, en fait, pour poursuivre une certaine lutte ou dans laquelle on aimerait donner accès à la terre à plus de personnes?
Ça peut l'être. Je pense que c'est un bon modèle qui existe actuellement. Je serais beaucoup plus pour recéder les terres aux population, tu sais, directement, tu sais, une grosse réforme agraire / révolution, là, tu sais, mm-hmm. Parce que, tu sais, ça nous écarte pas nécessairement du courant dominant où, c'est ça, faut que tu fasses l'acquisition d'une propriété, tu sais. Mais ceci dit, tu sais, le socle que représente la FUSA peut recevoir des nouveaux dons. C'est-à-dire que des personnes qui seraient sensibilisées à la cause des FUSA, qui possèdent une terre, pourraient faire don de leur terre, puis donc agrandir la superficie de Sacheteur, par exemple, et donc potentiellement donner accès à des nouveaux projets. Tu sais, comme nous, actuellement, à Sacheteur, on est 6, 7 ou 8 projets, je ne sais pas exactement. Déjà, tu sais, anciennement, c'était une seule personne qui occupait toute la terre. Maintenant, c'est 8. Donc, on est plus à même de véritablement la valoriser. Est-ce que c'est un modèle d'avenir? Je ne sais pas encore, mais c'est probablement le mieux qu'on peut faire dans les conditions actuelles. Fait que j'en parlerai positivement, disons.
Mm-hmm. Et il y a une fragmentation, en fait, qui se fait de la terre, qui en soi peut-être quelque chose d'intéressant. Disons même au niveau des relations qu'on entretient avec la terre. Dans les objectifs de la ferme de la dérive, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait comme idée de se rapprocher ou de rapprocher le réseau d'alimentation de la communauté. Par quels moyens ça se fait? Est-ce que c'est à travers justement des échanges? Est-ce que c'est tout le temps sur une base monétaire? Est-ce que quels sont vos moyens d'entrer en relation avec la communauté?
Bien, ça peut se faire de différentes façons, là, je pense. Là. Tout d'abord, en fait, c'est ça, de par le fait qu'on ne veut pas être strictement qu'une ferme maraîchère, ça vient avec l'idée qu'on veut développer différents pans sur la ferme. Donc, par exemple, une production animale, une apiculture, il pourrait y avoir un verger, il pourrait y avoir différents pans comme ça. Puis il faut dire que on n'est pas encore assez pour pouvoir gérer toutes ces affaires-là. Donc, on aimerait ça fonctionner selon le modèle coopératif. D'une certaine façon, avoir de créer ces pans-là, puis qu'il y ait une distribution des revenus parmi tous les pans de la ferme qui se développe. Certainement, il y en aura des moins rentables, il y en aura d'autres qui seront plus rentables, mais c'est pas parce que quelque chose est moins rentable qu'il est moins utile, mais s'il est moins rentable, ça fonctionne moins bien. Donc, on se dit que peut-être que si c'est le volet maraîcher qui est plus en même de générer de l'argent, il va pouvoir en donner une partie des gens qui travaillent sur l'apiculture, par exemple, puis donc garder ce volet-là actif. Donc, oui, une distribution des revenus. Ensuite, pour nous rapprocher de la communauté, c'est sûr qu'on pense à cette idée-là d'organiser, par exemple, des corvées où la population bicoise là, pourrait venir participer puis repartir avec des récoltes. Donc, vraiment s'impliquer sur nos espaces en production. Puis finalement, contribuer, donc créer des liens, se rapprocher de la communauté, etc. Donc, ça, ce sont deux façons. Puis aussi, cette année, on a fait construire une structure sur notre terrain, en fait, qui sert essentiellement à faire sécher des choses, tout ça. Puis il y a un nouveau groupe de construction communautaire à Rimouski qui s'appelle La Couverte, qui est une organisation vraiment cool qui travaille en construction, là. Construction, rénovation, je ne sais pas c'est quoi qu'il faut que je dise. Et puis avec cette gang-là, on s'est entendu pour qu'ils nous construisent la structure, puis en échange, on leur donne des légumes. Donc, on a été capable de, avec eux, parce qu'ils étaient tout à fait à l'aise avec ça, de s'échanger des genres de services, donc de sortir du réseau de l'argent pour, somme toute, s'aider, se bâtir mutuellement.
Puis il y avait la question de la production du blé aussi. Vous avez paru dans les médias par rapport à ça. Vous avez essayé de produire du blé cette année de manière complètement non mécanisée, dans la perspective peut-être un jour d'avoir une organisation communautaire qui serait capable de passer de la semence à la volée au pain qui pourrait et que l'argent pourrait être distribué tout au long de la chaîne de production.
Oui, c'est ça, exact. Ben là, c'était des tests, là, c'est-à-dire qu'on avait un rang d'environ 600 pieds. En fait, deux rangs qui combinés faisaient environ 600 pieds de blé. C'est pas beaucoup, là, si on compare ça aux échelles industrielles. Mais notre idée, c'était surtout de voir si c'était réalisable d'effectuer ce travail-là selon des méthodes plus traditionnelles, c'est-à-dire non mécanisées. Donc, tu sais, c'est ça, comme tu disais, semer à la volée, mais aussi faucher avec une faux. Battre avec un bâton, moudre avec ton blender, puis faire du pain comme tu peux. Puis, tu sais, notre idée derrière ça, c'était de produire du blé, donc la semence de blé, pour la transformer en pain, mais on voulait l'intégrer dans toute une chaîne de production qui était coopérative. C'est-à-dire que on voulait pas vendre notre blé à une boulangerie ou à un moulin, par exemple, qui allait le transformer en farine, puis le moulin allait vendre la farine à la boulangerie. Tu sais, ce qu'on voudrait, c'est que l'argent qui est généré à tous les maillons de la transformation soit collectivisé, puis que tous les gens qui travaillent dans ce processus-là puissent recevoir la même rémunération, dans le fond, donc de comme équitabiliser les rapports entre nous, qu'il n'y ait pas de forme de dominance, là, où est-ce que tu as une espèce de grossiste qui te négocie des prix à la baisse, puis que là, tu es obligé un peu de te soumettre à ça, puis qu'après, il essaie de revendre plus cher la farine, puis qu'il ramasse des profits de cette façon-là, tu sais. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir une espèce de chaîne intégrée, puis ben ça, c'est un travail en cours qui demandera un certain effort, j'avoue.
Et à différents niveaux, parce que même, tu parlais du retrait des techniques plus mécanisées, ben il y a aussi une implication du corps, et donc on parle d'effort, mais il y a aussi justement l'effort du corps. On aimerait bien parler d'une question qui t'habite, puis qui on sait t'anime, qui est celle de la souveraineté alimentaire. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un historique de résistance face à l'agro-business et au modèle du capitalisme international qui repose sur le libre-échange. Peux-tu nous parler un peu des mouvements paysans qui ont émergé, notamment avec la Via Campesina, et de leur influence sur les pratiques que vous tentez de mettre en place au BIC?
Oui, absolument. Je peux parler un peu de comment... les souverainetés alimentaires sont devenues quelque chose, c'est-à-dire comment ça s'est conceptualisé, d'où ça part. Là. Sinon, je peux aussi décrire qu'est-ce que c'est pour moi les souverainetés alimentaires. Là. Mais c'est ça. Mais en fait, la question, c'est quoi?
Mais en fait, c'est ça. Peux-tu nous parler un peu des mouvements paysans qui ont émergé là, dans les dernières années? Tu nous avais parlé, quand on s'était parlé un peu avant l'émission, là, de la Via Campesina qui avait émergé dans les années 90. C'est quoi, en fait, la Via Campesina, puis comment ça influence vos pratiques aujourd'hui?
Oui, absolument. OK, ben oui, là, excuse-moi, je comprends bien la question. Essentiellement, la Via Campesina, c'est une organisation paysanne internationale qui regroupe plus de 200 millions de membres, ce qui en fait le mouvement social le plus grand du monde. Bon, on peut dire ça de même. Comme tu l'as mentionné, ça a été fondé là, à l'orée des années 90, plus précisément en 1993, si je ne me trompe pas. Pour nous recontextualiser historiquement, on se situe un peu après l'effondrement du bloc soviétique. À cette époque-là, il y a l'espèce de des gens qui disent que finalement le capitalisme a triomphé, tu sais, parce que s'est effondré le bloc, tu sais, plus protectionniste qui était les communistes, là, appelons-les comme ça. À ce moment-là, ça ouvrait énormément de portes à la création d'un commerce international complètement globalisé. Dans les hautes instances internationales, là, je parle de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et même de l'ONU, y a des discussions qui s'enclenchaient sur comment est-ce qu'on peut faire pour mondialiser l'agriculture. Ce qui n'était pas encore tout à fait à ce moment-là. C'est drôle à dire parce que moi, j'étais né que cette conception-là de comme globaliser l'agriculture, c'était pas encore existant tout à fait. Bref, à ce moment-là, lors de ces négociations-là, il y a des paysans-paysannes d'un peu partout à travers la Terre qui ont commencé à vouloir s'organiser parce qu'ils voyaient bien que l'intégration de l'agriculture dans le commerce international allait nous faire frapper un mur. T'sais. Déjà, okay, on se trouvait là, en 93 à peu près, on nous parlait de si on va dans ce sens-là de la libéralisation des échanges, on va exacerber les enjeux environnementaux, alors que c'était même pas un thing, là, les enjeux environnementaux à cette époque-là. Ils nous disaient que si on va dans ce sens-là, on va assister à une diminution accentuée du nombre de fermes, ce qui a effectivement été le cas, c'était presque une prémonition, puis ça, puis ça. Puis dans le fond, il y a eu un discours qui s'est développé là, à la Via Campesina, en fait, les gens qui étaient là, puis eux autres, ils se sont dit, en fait, l'alimentation, ça ne doit pas être remis dans les mains de l'entreprise privée. En fait, l'alimentation doit être sous contrôle collectif. C'est-à-dire que ça devrait être les populations qui décident de leur alimentation. Puis ça devrait se faire en favorisant l'émergence des fermes à échelle humaine. Tu sais, ça, c'est un premier point qu'il soulevait. Après, il disait, la production d'aliments, ça doit être assuré par les principes de l'agroécologie paysanne. Donc, il ne faut surtout pas tendre vers les monocultures desquelles on nous parle. Il faut, au contraire, diversifier les productions fermières. C'est un second point. Puis, il y avait un autre élément qui était très important dans leur discours, c'était la redistribution des denrées alimentaires doit être réfléchie collectivement. Donc, la nourriture, en fait, ça ne devrait pas être traité comme un bien privé, mais plutôt comme un bien commun. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas marchandiser l'alimentation. Donc, ce discours-là s'est développé, puis a été présenté en 1996 lors du sommet de l'alimentation qui est organisé par la Food and Agricultural Organization, qui est la FAO, là, peut-être que vous avez entendu ça. Donc, se sont ramassés à la table de négociation avec de grands technocrates. Puis les technocrates, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est non, non, mais nous, le concept qu'on veut mettre de l'avant, c'est celui des sécurités alimentaires. Puis, tu sais, essentiellement, la sécurité alimentaire, ça dit genre, il faut que tout le monde soit nourri tout le temps. Ça ne donne aucune indication sur comment la nourriture doit être produite, comment elle doit être distribuée. Tu sais, c'est vraiment une espèce de concept vertueux qui ne veut rien dire, finalement. Puis, évidemment, lorsqu'il y a eu les négociations, alors que la Via Campesina proposait les souverainetés alimentaires, là, qui s'explique essentiellement par les points que je vous ai soulevés, ben, ça n'a pas passé pantoute. le néolibéralisme était trop fort à ce moment-là, donc c'est le concept de la sécurité alimentaire qui a été développé.
Mais ceci dit, c'est encore dans ce paradigme-là qu'on se situe aujourd'hui quand on parle de la résilience des systèmes et tout, c'est encore dans le paradigme de la sécurité alimentaire et non pas de la souveraineté alimentaire qui voudrait faire accéder à tout le monde ou bien au plus grand nombre possible la capacité de produire de la nourriture, d'être en contrôle de la production.
C'est ça, c'est ma lecture, puis c'est aussi les lectures que je fais disent ça aussi.
Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça pose la question à savoir qu'est-ce qui est globalisé puis qu'est-ce qui est, disons, territorialisé. Puis on peut se poser la question, justement, comment ces mouvements, qui sont par exemple ceux de la Via Campesina, arrivent-ils à s'inscrire à la fois dans une lutte globale et dans des réalités territoriales et sociales qui sont à la fois multiples et changeantes?
Ouais, ben. Ça, c'est ça exactement. C'était ça le point de la Via Campesina. Puis c'est pour ça qu'il parlait de souveraineté alimentaire. Là, t'sais. Souveraineté, ça appelle à l'autodétermination des peuples sur un territoire donné. Là. Enfin, ce qu'il disait, c'est que les gens sont capables de s'organiser. Je veux dire, on s'est nourri depuis que, je sais pas, là, les humains existent. On est arrivé à survivre puis à s'alimenter. Puis là, soudainement, vous nous dites que ce sont des entreprises privées qui devraient gérer tout ça alors qu'on était capable de le faire. Ben là, dans le fond, vous allez contre le principe de la souveraineté, là. Vous allez vers la privatisation, vous allez vers donner le pouvoir aux forces économiques en vigueur. Tu sais. Dans le fond, la souveraineté, c'est ça l'idée, c'est comme chaque territoire devrait être capable de s'organiser lui-même. Donc forcément, il y a un ancrage local derrière le concept. C'est un concept flou quand même, justement parce qu'il appelle à... Il appelle les communautés à s'organiser elles-mêmes, puis de décider de comment ces communautés-là veulent elles-mêmes produire leur alimentation, plutôt que de se le faire imposer par des logiques dominantes, par exemple. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on essaye de recréer ce climat-là, c'est-à-dire qu'on aimerait ça pouvoir faire participer davantage la communauté, on aimerait ça pouvoir les sonder, leur demander qu'est-ce que vous avez le goût de manger, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'on produise les choses de cette manière-là? Est-ce que vous auriez des critiques à nous émettre? OK, oui, donc, OK, comment on peut les améliorer? Donc, tu sais, de vraiment comme connecter, en fait, tout ce qui est sphère productive puis sphère consommatrice pour que, tu sais, soudainement, l'agriculture puis l'alimentation, ça devienne un seul secteur. Tu sais, actuellement, on parle d'agriculture ou on parle d'alimentation, mais rarement des deux ensemble. Puis ça, pour nous, c'est un problème, là, dans le sens où l'emphase est trop mise sur la production, puis on perd un peu le sens de comment ça devrait se faire. Puis au bout de la ligne, on regarde, y a-t-il des gens qui sont nourris? Oui, OK, parfait. Fait, pour nous, c'est extrêmement limité comme façon de raisonner, je sais pas, le changement. Là,
puis à la Via Campesina, j'imagine qu'il n'y a pas eu que des dynamiques de négociation dans des instances de l'ONU. J'imagine qu'il y a eu des moments de confrontation plus directs, peut-être avec des acteurs de l'agro-industrie. Est-ce qu'il y a eu des dynamiques de reprise de terre par des communautés paysannes face à l'accaparement par l'industrie?
Oui, il y a un exemple super cool auquel je pense. C'est pas exactement la Via Campesina, c'est la Confédération paysanne, mais qui est membre de la Via Campesina, qui, au début, ben, en fait, c'est dans les années 90, a participé à ce qui s'appelait le démantèlement du McDonald's de Milo. C'est-à-dire qu'il y avait une ville en quelque part en France, Milo, plus précisément, qui voulait installer un McDonald's. Puis il y a plein d'agriculteurs et agricultrices qui se sont mis ensemble et qui sont allés briser les infrastructures, qui ont juste tout jeté à terre en disant genre, ça n'a pas d'allure votre affaire de vouloir tout industrialiser, on s'en fout des McDo, on est capable de se nourrir nous-mêmes, crime, on le fait depuis toujours. Puis c'est là où José Bové, qui était un peu le leader du mouvement, s'est ramassé en prison, etc. Puis il y en a certains qui parlent de cet événement-là comme étant le début de l'altermondialisme, qui n'est plus un terme qu'on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui se situe dans le fond au cœur d'une critique de la mondialisation. Puis ben, c'est ça, c'est intéressant parce que oui, il y a eu des exemples là, de réappropriation de terres, de combats durs qui ne sont pas juste... c'est ça, s'asseoir avec le ministre et dire « S'il te plaît, écoute-moi », tu sais, c'était vraiment genre « Non, non, on va prendre le contrôle », tu sais, puis il y a les fameux cas de fermiers, justement, qui prennent un load de fumier puis qui s'en vont le dropper à l'hôtel de ville, tu sais, pour mettre de la pression sur les mairies puis tout ça, tu sais, ça, c'est des cas nombreux. Il y a, tu sais, Notre-Dame-des-Landes, où est-ce qu'il y a eu une forme de réappropriation de la terre, tu sais, il y avait un aéroport qui voulait se construire là, les gens, en fait, ben non, 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 ça se passera pas de même, tu sais. Il y a des mouvements combatifs là, qui existent. Puis souvent, c'est ça, ça se faisait dans des perspectives où, en tant que peuple, nous sommes capables de prendre nos décisions. On n'a pas besoin du patronat, on n'a pas besoin des capitalistes. Là, on est capable de faire les choses nous-mêmes. Puis ça, je pense, ça s'inscrit dans le courant, c'est ça, de l'autodétermination des populations. Là.
C'est ça. Puis si on veut effectivement parler d'autonomie, ben il faut effectivement donc revenir à cette question-là d'accès à la terre et donc de effectivement réfléchir à comment collectivement reprendre la terre. Et donc, je pense que c'est assez inspirant à ce niveau-là. Puis est-ce que finalement, c'est un peu ces mouvements-là dont tu parlais là, avec le McDonald's qui inspire votre lutte, la lutte que vous menez en ce moment ou que vous avez menée contre l'implantation d'un Costco dans votre région? Je sais que ça a quand même fait ça aussi les manchettes. Là.
Donc, ça s'inscrit dans ce pattern-là. Là. C'est-à-dire que je n'irai pas à fond dans l'analyse, là, mais pour nous, le Costco qui va venir s'établir à Rimouski, ben, ça vient accentuer là, l'espèce de logique consumériste, puis ça vient un peu accentuer cette logique-là de commerce international, puis d'accessibilité à n'importe quel aliment, peu importe où est-ce qu'il pousse, à prix modique parce que ben, on a exploité du monde à l'autre bout de la planète. Pour nous, mettons, ce genre de commerce-là, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, ça ne s'inscrit vraiment pas dans une perspective du changement. Je veux dire, les négociations sont faites. Là. C'est-à-dire que le Costco va venir à Rimouski. Il n'y a plus le temps d'aller demander au maire Marc Parent de Rimouski « Hey, s'il te plaît, back off ». Je veux dire, il faut qu'il y ait d'autres formes d'organisation là, pour protester contre l'avènement de ces choses-là. T'sais.
Exact. Puis vous avez fait une sortie en ce sens-là, dans le sens où effectivement vous avez rejeté clairement l'arrivée du Costco. Puis comment ça a été reçu en fait par les communautés locales de la région?
Ça a été plutôt mal reçu. On a eu droit à des vagues d'insultes, mais c'était quand même le fun. C'est-à-dire que ça a été très polarisant, là. C'est-à-dire que ça a vraiment soulevé certaines passions. Là. Les gens étaient... on a eu beaucoup d'appui là, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, c'est courageux, c'est cool, je pense comme vous, merci de porter ce message-là. Puis à l'inverse, il y avait un sondage de Radio-Canada qui avait été fait au Bas-Saint-Laurent qui était pour ou contre la venue d'un Costco. Puis c'était comme 85 ou 90% de la population rimouskoise qui était pour la venue d'un Costco. Puis c'est drôle aussi parce qu'on nous sortait ça comme argument pour genre, tiens, on vous l'avait dit que c'était bon. Puis là, on était genre, ben non, ça veut pas dire que c'est bon parce que vous êtes pour, genre. C'est pas ça qui se passe, là, mais c'est ça, tu sais, ça raffermit aussi l'idée que, je veux dire, le changement peut être provoqué, doit être provoqué, en fait. C'est ça, je veux dire.
Tout à fait, effectivement, et merci de mener cette lutte-là et de percer, parce qu'on voit effectivement que c'est des mondes en fait qui s'opposent. Gabriel Leblanc, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu partager ces perspectives-là avec nous. Est-ce qu'il y a des moyens par lesquels on peut suivre la ferme de la dérive? Avez-vous un site quelconque sur lequel on peut vous rejoindre, vous suivre?
Ouais, ben en fait, on a une page Facebook. Okay. Ferme de la dérive. L'été, on publie surtout des photos de légumes, mais l'hiver, on se réactive en mode combatif. Fait que c'est là où on publie des articles, on soulève des réflexions, etc. Donc, on a ce petit volet-là, un peu diffusion d'idées politiques. Là. Fait que c'est ça, la ferme de la dérive sur Facebook. Puis, je pense que c'est pas mal la seule méthode pour nous suivre.
Merci. Et on peut aussi, j'imagine, suivre tes publications dans le journal Le Mouton Noir de Rimouski. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, l'émission va être en rediffusion vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Il est aussi possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contrepoint.media ou via le anchor.fm. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine.
Thank you.